Radio Okapi.
Les titres ce matin, rencontre au sommet hier à l'Elysée entre le président français et son homologue de la RDC. À l'occasion, François Hollande et Joseph Kabila Kabange ont mis le doigt sur la nécessité de diversifier les échanges économiques et humains entre leurs deux pays. Le ministre de l'Intérieur souhaite que des contacts aient lieu au plus vite afin d'éviter de fragiliser les relations entre Kinshasa et Brazzaville. Réaction de Richard Mouyej après l'interdiction des compatriotes à se rendre à Brazzaville parce qu'ils n'avaient pas de passeport et de visa. Une première au Katanga avec l'installation hier après-midi à Lubumbashi du tribunal de travail. Cette nouvelle juridiction a reçu mission de trancher les litiges collectifs et individuels entre employeurs et employés. Vous faites bien d'écouter ce journal, madame, messieurs, bonjour. Joseph Kabila Kabange et François Hollande, d'accord sur la nécessité de développer et de diversifier les échanges économiques et humains entre la RDC et la France. Parmi les secteurs qui sont concernés, on cite notamment les transports, les infrastructures et la gestion durable des ressources naturelles. C'est ce qui ressort en tout cas de l'entretien que le président français a eu hier à Paris avec son homologue de la RDC. Selon le communiqué de l'Elysée, les deux chefs d'État ont aussi aborder la situation dans la région des Grands Lacs, la crise centrafricaine et la situation sécuritaire dans l'est du Congo-Kinshasa. Le point avec vous, Michel Kifindangoy.
Au cours de l'entretien avec Joseph Kabila, François Hollande a rappelé son attachement à l'intangibilité des frontières de la RDC. Il s'est également réjoui des progrès obtenus dans la lutte contre les groupes armés qui sévissent dans l'est de la RDC. François Hollande et Joseph Kabila ont tous deux réaffirmé leur mobilisation pour la République centrafricaine où des contingents des deux pays sont déployés. Ils ont également marqué leur volonté que l'opération de maintien de la paix des Nations Unies qui sera déployée à partir du 15 septembre dispose d'un mandat solide et soit articulée autour de la mission africaine aujourd'hui présente. Au plan bilatéral, les deux chefs d'État se sont réjouis des relations de coopération entre les deux pays, notamment dans les secteurs de l'éducation primaire, de la formation professionnelle, de l'accès à l'eau et de la gouvernance financière du pays. François Hollande a enfin rappelé l'attachement de la France à la protection des libertés politiques, à la lutte contre les violences sexuelles, à la stabilité des institutions et à la défense des droits humains en RDC conformément aux différentes résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
Le traité entre la RDC et l'Afrique du Sud sur le projet Inga 3 débattu pour une seconde fois hier au Sénat ici à Kinshasa. Après le passage du ministre des Affaires étrangères, son collègue de l'énergie a répondu aux questions d'ordre technique. Des explications fournies par Bruno Kapanji Kalala, on retiendra que ce projet vise la construction d'un barrage de 4800 MW. Et cela pour combler le déficit en énergie sur l'ensemble du pays et de vendre l'électricité dans certains pays dont l'Afrique du Sud. Ce qui donnera, selon lui, la base d'un développement socio-économique durable et de la prospérité à tous les Congolais. Les sénateurs qui ont pris la parole à l'occasion ont exprimé leur scepticisme quant aux réponses données par le ministre. D'après eux, il faut des préalables en un mot. Le sénateur Mosendou s'explique au micro de Mimi Nguma Mulongo.
Est-ce que l'Afrique du Sud reste le meilleur partenaire pour un tel accord? Nous ne le pensons pas. Le gouvernement aurait dû s'ouvrir à d'autres partenaires potentiels d'abord. Deuxième chose, est-ce que l'Afrique du Sud a la capacité financière pour soutenir un tel projet? Non seulement nous ne le pensons pas parce que l'Afrique du Sud n'a soutenu aucun projet financier au monde, mais même dans l'accord, l'Afrique du Sud ne prend aucun engagement à soutenir financièrement ce projet. La troisième des choses, nous avons un problème sérieux d'eau. Le Moyen-Orient, le Mid-Est, tout le monde veut avoir accès à notre eau. Est-ce que ce n'est pas ça l'occasion, puisque ce sont des infrastructures qu'on devra ériger sur notre fleuve pour pouvoir leur céder de l'eau dans le cas où nous accepterions? Est-ce que ce n'est pas l'occasion de mobiliser les milliards de dollars chez eux et monter toutes ces infrastructures? À ce moment-là, ça devient des infrastructures propres à nous. Et nous nous disons, c'est vrai, le gouvernement a bien fait de voir qu'il y a un problème d'électricité et de voir qu'on peut négocier avec certains pays, mais je pense que le gouvernement s'est précipité dans l'engagement avec l'Afrique du Sud.
J'ajoute que plusieurs points restent encore à éclaircir sur cette question et pour cela, le ministre Bruno Kapanji reviendra demain au Sénat. La décision d'exiger aux ressortissants de la RDC de se munir de leur passeport pour aller au Congo-Brazzaville en plus du laissez-passer surprend en tout cas les autorités du Congo-Kinshasa. Le ministre de l'Intérieur l'a dit hier à la conférence hebdomadaire de l'ONU à partir de Goma. Pour Richard Mouyège, il est important de privilégier le dialogue entre les deux pays afin de sauvegarder les bonnes relations entre les peuples du Congo-Kinshasa et du Congo-Brazzaville. Il ajoute que la mesure des autorités brazzavilloises est contraire à un accord signé entre l'Angola, la RDC et la République du Congo. On l'écoute dans ses propos recueillis par Askin Zigatairo.
Nous avons été tous surpris par ce nouveau développement de ce qu'il convient désormais d'appeler une crise. Le dernier développement est justement celui où on a vu nos compatriotes refoulés parce qu'ils n'avaient que les laisser passer, ce qui jusque-là était admis. On a exigé les passeports et les visas, mais tout de suite j'ai donné l'instruction à la DGM de faire autant. C'est ce que nous faisons aussi. Mais c'est une politique que nous n'aimons pas beaucoup. Ce que nous voulons est que nous puissions nous rencontrer parce que tout ce qui se passe est contraire aux accords que nous avions convenus lors de la tripartite Angola, RDC, RC. Nous souhaiterions que les contacts se prennent très vite pour éviter de fragiliser les relations qui sont déjà assez bonnes. Au niveau de l'espace frontalier, ce sont les mêmes peuples, ce sont pratiquement les mêmes cultures. En ce qui concerne la partie qui est la nôtre, nous continuerons à faire cet effort pour réaliser le rapprochement. Le gouvernement n'est pas faible. Nous aurons l'occasion de faire un point de presse pour expliquer notre position actuelle.
Et puis, 80 à 120 dollars américains pour obtenir un visa en l'espace de 48 heures, voilà ce qu'il faudra désormais débourser pour aller au Congo-Brazzaville. Seulement voilà, obtenir ce visa n'est pas chose aisée. Pour preuve, ce mercredi, une foule inhabituelle s'était massée devant l'ambassade de ce pays à Kinshasa dans l'espoir de l'avoir. Agathe Mpona Elema, faites-nous entendre votre reportage.
Ce montant peut aller jusqu'à 170 voire 240 dollars pour un visa dit express, c'est-à-dire devant s'obtenir le même jour. Hormis ce montant, il y a également un formulaire à remplir et des documents à présenter. Les requérants rencontrés ce mercredi matin devant les locaux de l'ambassade se plaignent du nombre de documents à réunir. La bousculade était au rendez-vous.
Ils ont dit 9h, mais c'est à 9h45 qu'on a été reçus. On exige encore beaucoup de choses. Comme par exemple, c'est mon cas, moi j'ai reçu l'invitation provenant de Brazzaville, signée par le maire de Brazzaville. Mais j'arrive ici, on dit que c'est insuffisant. Il faudra encore que la direction de l'immigration de Brazzaville puisse lui aussi apposer son sceau sur l'invitation.
On a demandé de repasser aujourd'hui à 9h. Depuis qu'on est là, on n'a pas l'accès à l'ambassade.
Au nombre de documents exigés figure une réservation d'hôtel, une lettre d'invitation ou un certificat d'hébergement visé par la mairie de la ville de Brazzaville et par le service de migration du Congo d'en face.
Autre fait de l'actualité sur Radio Okapi, le chef du bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme, en RDC, dit avoir enregistré en avril 232 violations des droits de l'homme commises dans ce pays. Scott Campbell affirme que cette statistique représente aujourd'hui une augmentation d'environ 23% par rapport au mois de mars. Il ajoute que les types de violations des droits de l'homme les plus rapportés sont entre autres les atteintes au droit à l'intégrité physique, à la liberté et sécurité de la personne, aux atteintes à la vie et au droit de la propriété au nord et au sud Kivu. Annonce faite hier à la conférence hebdomadaire de l'ONU à Kinshasa. Scott Campbell revient ici sur les mesures qui sont prises pour respecter les droits de l'homme au Congo-Kinshasa. Des propos recueillis par Askin Zigatairo.
Concrètement, il y a deux choses à renforcer, bien qu'il y a des efforts très importants en cours par le gouvernement, par la société civile et par les Nations Unies et les membres du corps diplomatique aussi. De un, c'est bien sûr la réforme du secteur sécuritaire, notamment à travers la formation, l'éducation et des militaires et les membres de la PNC. Ce sont des processus qui sont déjà en œuvre. Il faut évidemment les renforcer et il faut intégrer aussi un mécanisme de vetting, comme le Conseil de sécurité l'a insisté, pour que ceux qui sont responsables de violations des droits de l'homme soient exclus du service public, notamment au sein des forces de défense et de sécurité. L'autre aspect où il faut renforcer, mais en même temps je note le progrès fait, c'est la lutte contre l'impunité. Il faut bien sûr pour que les responsables des auteurs de violations des droits de l'homme parmi les groupes armés, parmi aussi les agents étatiques, soit traduit devant la justice, soit redevable.
Braquons maintenant les projecteurs sur le Katanga avec l'installation hier à Lubumbashi du tribunal de travail pour trancher les litiges collectifs et individuels entre employeurs et employés. Concrètement, à quoi les deux parties doivent s'attendre après l'installation de cette nouvelle juridiction? La réponse du président de cette juridiction, Francis Wotopunga, est au micro Radio Okapi de Madeleine Waila.
En plus des litiges individuels qui vont être appelés à trancher, il y a la dimension des conflits collectifs de travail. Vous avez eu à voir à travers la ville les agents des différentes entreprises en train de marcher sur les rues, ce qui n'est pas une procédure adaptée. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de tribunal de travail et les litiges collectifs de travail étaient restés en suspens. Le tribunal de travail va même ratisser et trouver des solutions adéquates pour éviter pareil dérapage. Les travailleurs n'avaient pas à quel sens se vouer en cas de cessation collective de travail ou de lock-out. Ce qui arrive souvent avec certains employeurs, ils se décident sans motif économique valable de fermer l'entreprise, de mettre les travailleurs sur la rue. Tout cela sera vérifié. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas invoquer les motifs économiques sans que vous soyez inspecté. Et nous allons étendre même notre expérience jusqu'au conflit qui concerne la sécurité sociale. Il y a de ces employeurs qui ponctionnent sur les salaires des travailleurs sans les reverser à l'INSS.
Une brève pour finir ce journal. Les prisons centrales de la RDC sont en rupture des stocks de nourriture, constat fait dans la plupart des établissements pénitentiaires des grandes villes du pays. Le directeur des services pénitentiaires au ministère de la Justice minimise les faits. Pour Matata Mpala, il ne peut y avoir rupture des stocks de nourriture car toutes ces prisons sont régulièrement ravitaillées par la tutelle assistée des gouverneurs. Il note que par trimestre, le ministère de la Justice loge dans le compte bancaire de chaque prison de la argent suffisant pour nourrir les prisonniers. Mais d'avril à juin, précise la source, ce compte n'est pas encore alimenté. Le retard serait dû principalement à la lourdeur administrative au niveau du ministère du budget. Fin de ce journal, merci d'avoir écouté.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.